Vous êtes sur RTL.
Parlons-nous avec Sophie Cadalen
sur RTL.
Nous allons parler avec Élise tout de suite, qui va réagir à l'émission d'hier, justement, ces divorces dont on a parlé, les pères ou les mères qui disparaissent, les enfants écartelés. Et Élise, d'ailleurs, voulait réagir à ça. Et si vous voulez écouter le replay de l'émission, c'est sur rtl.fr, où Régine et Christine nous ont raconté leur histoire et leur colère aussi. Bonsoir, Élise.
De prendre mon appel, hein. Alors, écoutez, j'espère que je vais être aussi concise et aussi fluide que je l'étais avec vos charmants collègues. Je
voulais juste Paul et voilà. Caroline.
Exact. Je voulais juste réagir par rapport à effectivement l'émission d'hier soir qui,
oui,
au départ, a suscité chez moi un petit peu d'énervement et puis finalement une certaine tristesse vis-à-vis du témoignage de ces deux femmes.
Oui.
Je comprends infiniment la position, puisque je pense que c'est également la position de ma mère.
Mmh.
Mais en même temps, si vous voulez, vous nous invitiez ce soir à intervenir en tant qu'enfant, et c'est ce témoignage-là que je voulais apporter ce soir, en fait.
Eh ben, merci, Élise. Racontez-nous alors, vous, votre
expérience.
Alors,
juste pour faire une petite introduction, une situation assez classique, des parents qui divorcent alors que j'étais adolescente, et puis, avec l'expérience que j'avais à l'époque, je prends le parti de ma mère, je,
oui,
pars avec ma mère, sans me retourner, sans vraiment penser à deux fois. Et puis le temps passe. J'avais quand même pour mon père à l'époque une grosse rancœur, une grosse rancune. Et finalement, c'était un être que je ne connaissais pas, une personne que je ne connaissais pas, même s'il était toujours à 5 ou 10 mètres de nous. C'était un abonné absent.
Oui.
Donc, voilà. Et le temps a passé et en fait, je suis toujours restée avec ma mère. Noël n'a jamais été un problème pour moi parce que j'ai jamais vraiment aimé cette période-là de l'année.
Mm-hmm.
Je trouve que devoir être heureux ou devoir envie de festoyer alors qu'on n'est pas nécessairement disposé, c'est pas toujours idéal. Mais bon, c'est quelque chose que je respectais et que je faisais en famille puisque c'était la tradition.
Ouais.
Mais je vous avoue que dès que j'ai pu m'évader de cette période-là, c'est-à-dire j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, et c'était une bonne excuse pour moi pour ne pas avoir à revenir à cette période-là.
Oui.
Au-delà de ça, il m'a été...
D'ailleurs, en passant, est-ce que votre mère vous faisait le reproche d'être absente
non,
à cette période?
Non,
c'était admis non. entre vous
C'était accepté, admis, je ne sais pas, mais c'était toléré ou accepté.
D'accord.
Et puis, bon, on est quand même une fratrie de trois filles, donc, si vous voulez, c'est pas parce que j'étais pas là que Noël ne pouvait pas se passer.
Oui,
c'est pas un drame.
D'accord.
Et je savais que mes sœurs faisaient le job à côté, donc c'était pas un souci. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait, pendant le temps où je n'ai pas tout revu physiquement mon père, j'ai eu le temps de beaucoup mûrir et de me retrouver dans des situations où j'ai compris par rapport à lui. Si vous voulez, lorsque j'ai été petite, il y avait des situations où je ne comprenais pas ses colères. Et lorsque je suis devenue une adulte, j'ai eu des situations où je me suis mise en colère et ça m'a remis en perspective par rapport à mon passé. Et je me suis retrouvée dans des colères qu'il avait lui et que je comprenais quand j'étais devenue adulte, puisque j'étais en face d'une même situation et je réagissais de la même façon.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, j'ai pu comprendre que ce père que j'avais ignoré, dénigré, et on s'était ignoré mutuellement, m'était finalement pas si étranger que ça.
Ouais.
Cependant, je n'ai jamais fait l'effort de le revoir.
Mmh.
Et
ça vous dérangeait à cette époque de reconnaître cette reconnaissance?
Alors, ça m'a demandé un gros, gros travail d'acceptation et surtout de lucidité par rapport à ce que j'étais. Et c'est la première chose que je voulais dire à ces deux témoignages, à ces deux femmes hier soir, ces deux mères, c'est qu'il ne faut pas qu'elles oublient une chose, c'est qu'un enfant, on ne le fait pas tout seul et on ne le fait pas pour soi, on le fait à deux, par chance ou par, j'espère, en toute conscience, sur un acte d'amour, ou parfois sur un acte peut-être un petit peu plus inconscient. Mais un enfant, c'est jamais le résultat d'une seule personne, c'est le résultat de deux êtres.
Mmh.
Et je ne veux pas faire de la biologie de comptoir, mais un enfant, c'est la la réunion de deux ADN, de deux héritages.
Oui.
On ne parle pas que d'héritage historique, familial, environnemental, on parle également de génétique, un point c'est tout.
Oui.
Et ce qui est essentiel de comprendre, c'est que les enfants ont beau prendre parti à un moment donné de leur vie pour l'un des deux parents, soit par nécessité, soit parce qu'ils n'ont pas réfléchi, que c'est comme ça, à un moment ou un autre, ils se retrouvent face à une réalité qui, s'ils ne sont pas lucides, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas appréhender. Et cette lucidité, moi, j'ai eu la chance de l'avoir, c'est que à plusieurs moments, je me suis retrouvée face, alors que mon père n'était pas là, j'étais face à des situations qu'il avait vécues, lui, et je réagissais exactement de la même façon que lui.
Oui.
Et à ce moment-là, je me suis dit, bon Dieu, il faut vraiment quand même que je fasse la part des choses.
Oui.
Et pendant une bonne dizaine d'années, j'ai fait attention à ces signaux-là, et sans revoir mon père, sans en avoir le désir, hein, parce que je ne savais pas qui pouvant avoir envie. Puis j'estimais que c'était à lui, tout orgueilleuse que j'étais, j'estimais que c'était à lui de faire le premier pas.
Oui.
Et donc, pendant 10 ans, j'ai évolué, j'ai mûri, et j'ai compris ses réactions, et j'ai accepté sa part qui était à l'intérieur de moi.
Oui.
Comme on dit, les chiens font pas les chats, ou les chats ne font pas les chiens. Et c'est une vérité.
Mmh.
Et c'est la première chose que je voulais dire à ces femmes-là, et notamment à la dame qui a, je crois, 3 garçons. Il ne faut pas qu'elle oublie que ces garçons, ils ont quand même eu un père. Ce sont des hommes qui vont avoir des femmes, des enfants. Et qu'il est très, très difficile pour un enfant, un adolescent et un adulte d'être épanoui, d'être équilibré lorsqu'il lui a manqué une partie de ce qu'il a créé.
Oui.
Moi, je m'en suis rendu compte très tard, j'avais 33 ans, enfin j'avais entre 25 et 33 ans, grosso modo, mais ça a été un cheminement assez long, douloureux pour moi, parce que j'ai toujours eu l'impression d'être sur le fil du rasoir, de marcher sur une corde et de ne pas avoir de soutien dessous, même si je savais que ma mère avait tout fait pour nous,
oui.
Les études, vraiment, elle avait été absolument parfaite, mais je savais au fond de moi-même que je n'étais pas uniquement le résultat de ma mère, j'étais le résultat de l'union de deux personnes.
Et est-ce que vos sœurs participaient de cette prise de conscience?
Absolument pas. Et
oui.
Non. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que on a vécu toutes les trois sous le même toit, on est supposé avoir eu toutes les trois la même expérience de nos parents, et je peux vous assurer qu'on a trois expériences totalement différentes, au point où aujourd'hui, moi je n'ose plus, je n'en parle pas parce que je pense que ce que je dirais pourrait les déranger et leur faire de la peine. Je pense qu'elles ne pourraient pas comprendre mon cheminement personnel.
Ah oui.
Donc je n'en parle pas à mes sœurs. J'en ai parlé à ma sœur aînée il y a 2 ans puisque mon père est décédé depuis. Et j'ai eu un moment, un coup de colère face à son décès où il y a des choses qui sont un peu méchantes, des mots qui sont ressortis, des mots bruts. Et j'ai vu la surprise dans son regard et je me suis dit, oh là là, n'allons pas sur ce chemin-là, parce que j'ai compris qu'elle n'avait pas le cheminement que j'avais eu et que j'étais en terrain incompris, en fait.
Et avant que votre père décède, vous l'avez rencontré?
Alors,
vous avez renoué avec lui?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand les chiens ne font pas les chats, moi j'ai revu mon père, il m'a été donné de le revoir grâce à ma belle-mère,
oui.
Avec laquelle je n'ai pas entretenu de relation à son décès, puisque ma relation avec ma belle-mère s'est dégradée.
Oui.
Mais je dois lui reconnaître de nous avoir réunis. Et en fait, lorsque j'ai revu mon père, j'étais à l'étranger. Et un jour, je lui ai envoyé un mot parce que notre belle-mère nous avait contactés. Il n'était pas au courant. Et je lui ai dit, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai eu de la chance, ça a été maintenant. J'ai pu le voir 24 heures ou 48 heures après lui avoir envoyé un petit mot par la poste.
Mmh.
Et en fait, on s'est revus et je ne savais pas trop comment appréhender cette rencontre. Ce qui a été quand même assez incroyable, c'est qu'il ne m'a pas reconnue physiquement et je ne l'ai pas reconnue physiquement.
Oui.
C'est-à-dire que moi, je suis restée avec une image d'un homme qui avait 45 ans,
bien sûr.
Un homme qui en avait plus de 70.
Oui.
Et lui avait l'image d'une jeune fille qui avait 16 ou 17 ans, blonde, un peu ronde, et qui retrouvait grosso modo un garçon manqué qui avait 33 ans.
Oui.
Et donc, on s'est retrouvés à Paris,
mmh.
En terrain neutre, et je ne savais pas ce qui allait se passer finalement. On n'avait pas besoin de se poser de questions parce que les questions et les réponses sont venues assez naturellement.
Oui.
Je pense que lui avait fait sa part de chemin, moi j'avais fait la mienne. Et quand il m'a demandé ce que je lui reprochais et pourquoi je ne l'avais jamais revu, je lui avais dit que je n'avais jamais ressenti de sa part un besoin de me connaître ou de me voir, et que par conséquent, je n'avais pas voulu m'imposer à lui.
Oui.
Mais les années qui ont suivi, on a eu 12 ans, à partir de ce moment-là, si vous voulez, j'ai eu en face de moi mon propre miroir, je l'ai accepté, on ne s'est pas connu, mais on s'est reconnu, et c'est là où je parle des chiens et des chats. Parce que vraiment, à 33 ans, j'ai eu une relation fusionnelle avec mon père. Comme quoi, il n'est jamais tard pour bien faire. Mais c'était un point où il n'avait pas besoin de parler, je savais ce qu'il pensait. Il commençait une phrase, je la finissais. Il cherchait un mot, je le trouvais. C'était assez perturbant parce qu'à l'époque, j'étais encore à l'étranger. Et je le voyais deux fois par an.
Oui.
Et c'était déjà, notre cerveau fonctionnait exactement de la même façon. Notre cerveau, et par la suite, je me suis rendu compte, notre cœur fonctionnait exactement de la même façon. Et c'est ce que je voulais dire à ces femmes-là, c'est qu'elles peuvent être amères. Il ne faut surtout pas qu'elles s'enferment dans l'amertume et dans cet esprit de revanche. L'histoire qu'elles ont eue avec leur mari, parce qu'il faut bien qu'elles comprennent que c'était leur mari, n'est pas l'histoire que les enfants ont eue avec leur père.
Oui.
Un mari est un mari, un père est un père. Et il faut comprendre aussi autre chose, c'est que l'on soit homme ou que l'on soit femme, certains hommes ne sont pas faits pour être des pères et certaines femmes ne sont pas faites pour être des mères. Par contre, certains hommes peuvent rencontrer leurs enfants une fois qu'ils sont devenus adultes. Et certaines femmes peuvent rencontrer leurs enfants une fois qu'ils sont devenus adultes et commencer une relation. Oui. Et c'est là où je pense qu'il y a peut-être un effort supplémentaire à faire de la part de ces femmes qui ont déjà fait beaucoup d'efforts, et ça je l'entends tout à fait. Mais il faut qu'elles comprennent que les enfants, la partie enfant est achevée, même si on est toujours les enfants de nos parents, même si parfois les parents deviennent les enfants des enfants. C'est souvent comme ça que la vie tourne. Il faut qu'elles comprennent que ces enfants qui sont devenus des adultes, ces jeunes hommes qui vont avoir des enfants, qui vont se marier, vont avoir autre chose à penser qu'à savoir si leur mère veut qu'on vienne les voir à minuit ou à 11h ou à 6h du matin. Ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé, c'est ce qui m'a agacée en fait dans le témoignage hier de ces dames-là, c'est que je les ai trouvées assez, je ne veux pas dire le mot puéril ou enfantine, mais j'ai trouvé que leur témoignage était empreint d'une revanche. Elles avaient besoin de se positionner une fois de plus, elles avaient besoin d'être encore une fois la première dans le cœur de leurs enfants. Mais il n'y a pas de place à obtenir dans le cœur d'un enfant. Un enfant, c'est vos parents, un point, c'est tout. Vous les acceptez tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, et vous faites avec. Et là où j'ai trouvé la position de ces mères assez injuste vis-à-vis des enfants, de leur fils ou de leur fille, c'est que les enfants n'ont pas à choisir entre un père ou une mère. Le seul choix qu'un enfant a à faire, c'est de prendre le meilleur du père et le meilleur de la mère pour se construire. Et s'il ne fait pas ça, il est voué à l'échec. Et ça, c'est mon expérience personnelle. J'ai pas suivi de thérapie ou quoi que ce soit. La lucidité vaut parfois. J'ai pris beaucoup de temps, mais je pense que ma lucidité m'a permis d'y voir un peu plus clair. Mais surtout de faire la part des choses entre ce qu'était ma mère et ce qu'était mon père.
Oui.
Et j'ai trouvé le témoignage de ces femmes, somme toute, premier temps, ça m'a agacée. Et puis aujourd'hui, j'ai trouvé ça assez triste parce que je trouve qu'elles n'ont pas fait leur part de chemin personnel. L'une des femmes hier soir disait mon fils s'occupe trop de moi, il va falloir que je lui dise qu'il faut qu'il arrête de s'occuper de moi. Mais elle n'a pas besoin de lui dire, elle a juste besoin de lui montrer que elle est une femme et qu'elle peut prendre sa vie en main et qu'elle peut prendre des initiatives. Là, si un enfant se substitue à un père, si un enfant prend des initiatives vis-à-vis d'un parent, c'est qu'il sent qu'il y a un vide. Il se sent obligé de combler ce vide.
Mais peut-être que ces femmes, justement, étaient à un tournant, je crois, de leur vie et de leur relation à leurs enfants. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'elles appelaient.
Oui.
Et c'est pour ça que votre témoignage est si précieux, Élise. Parce qu'effectivement, vous dites tout ça. Vous replacez chacun, vous replacez l'enfant devenu adulte, au centre de cette histoire. Et effectivement, c'est le moment peut-être où ces femmes très mères, peut-être trop mères à certains égards, ont à apprendre effectivement à devenir aussi femme et un peu moins mère parce qu'il y a aussi un père.
Oui.
Et c'est aussi un chemin que font les enfants et qu'ils imposent. Et c'est ce que vous racontez très très bien, Élise.
Il faut qu'elle partage. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, en fait.
Ah, mais c'est beaucoup ce que vous nous avez dit, Élise. Vous avez très bien résumé, vous avez très bien complété, vous avez très bien re-raconté une histoire. C'était un autre point de vue. C'était celui-là qui nous intéressait. Et il est très précieux. Et vous êtes en paix, maintenant, avec ce père qui vous a quitté.
Alors, je ne suis pas en paix. Si vous voulez, on a eu beaucoup de chance parce que moi j'ai eu 12 ans avec lui. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai passé tous mes Noëls avec lui. Ma mère n'a pas été lésée dans le sens où je ne passais pas Noël en famille de toute façon, mais j'ai passé mes Noëls avec lui et c'était sine qua non, il n'y avait rien à discuter. Quand il est parti il y a 2 ans. Il a eu une grosse alerte au niveau de sa santé il y a 6 ans et j'ai compris lorsqu'il a eu cette première très grosse alerte. Quand les pompiers sont arrivés, je l'ai vu partir, je lui ai dit non, mais c'est trop tôt, tu ne peux pas, c'est impossible, tu ne peux pas. Et il nous a été donné de partager 6 années de plus. Il m'a donné 6 années de plus. Et ces 6 années-là, pour moi, m'ont permis de commencer un travail de deuil. Je ne savais pas que c'était un travail de deuil. Je m'en suis rendu compte lorsqu'il est parti, parce que j'étais triste, bien sûr. Ça m'a passé un choc. J'étais vraiment très triste. Et en même temps, je me suis dit, mais ça a été une chance inouïe de rencontrer cet homme et de rencontrer ce père.
Élise, alors nous, on n'est pas en deuil, mais on va devoir se quitter quand même. C'est la fin de l'émission. Merci infiniment pour votre témoignage.
Merci d'avoir pris mon appel.
Un très beau contrepoint et